En habit vert, rencontre avec une académicienne.
Sylvia Nagasinski a été élue à l'Académie française le 1er juin 2023. La philosophe s'est fait connaître pour sa pensée autour de la différence des sexes, du féminisme et de la bioéthique. Et pour la première d'En habit vert, une émission portrait qui retrace le parcours des académiciens et des académiciennes, elle se confie sur les moments essentiels qui ont forgé sa carrière intellectuelle. Et elle se raconte aussi, plus personnellement, sa passion pour le théâtre, pour le Rouge et le Noir et pour Balzac aussi. Et elle revient sur ce jour indélébile de son existence, son installation sous la coupole à l'Académie française. Bonjour Sylvia Nagasinski.
Bonjour.
Alors nous sommes dans le studio d'enregistrement de l'Institut de France à Paris, un lieu que vous commencez à bien connaître puisque vous le fréquentez tous les jeudis pour la séance de l'Académie française. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez découvert ce lieu ?
Je crois que j'avais un peu visité des quelques parties de l'Institut, mais j'étais venue à la remise des prix de l'Académie française parce que j'avais eu un grand prix, le grand prix Moron.
Et en 2013
En 2013, exactement. Donc, je me suis retrouvée absolument ravie sous la coupole. Et j'ai trouvé ça magnifique sans imaginer une seule seconde que je m'y retrouverais plus tard.
On en reparlera. Mais si nous sommes réunis ici, toutes les deux dans ce lieu, c'est pour apprendre à mieux vous connaître, Sylvia Nagasinski, votre parcours, vos passions et puis les coulisses de votre élection à l'Académie en 2023. Mais d'abord, je vous propose de remonter aux origines de ce nom de famille, Agazinski. Ce patronyme, vous l'avez hérité de votre grand-père paternel polonais. Il est arrivé en France dans les années 20. Il était boiseur dans les mines du Nord. Ce nom, c'est tout ce qu'il vous reste de cet héritage polonais ?
C'est vrai que ce nom étrange, je n'ai eu conscience de son étrangeté qu'à l'école, parce qu'avant, je n'en avais évidemment pas conscience. Et alors, j'étais contente d'avoir un nom différent des autres. Je voyais que ça. Je sentais que ça résonnait autrement, etc. Et donc, ça me plaisait sans que, et peut-être ça va vous étonner, mais personne... Tout au long de ma scolarité, personne ne m'a jamais demandé « Mais d'où vient votre nom ?» On aurait pu dire « C'est peut-être russe ou polonais. » Parce qu'à cette époque-là, il y avait une atmosphère extrêmement, comment dire, j'allais dire laïque, républicaine. Enfin, il y avait quelque chose qui était entièrement tourné vers l'avenir. En tout cas, ce dont je peux témoigner, c'est que les origines n'intéressaient personne. À cette époque. Et ensuite, bon, ben, j'ai gardé ce nom pour plusieurs raisons. D'abord, je me suis mariée tard et de toute façon, quand bien même je me serais mariée plus tôt, j'étais assez révoltée contre l'obligation d'adopter, par exemple, le nom
du mari.
De l'époux. Et bon, je me suis un peu plus intéressée, mais pas assez. Vous voyez, je fais partie de ces gens d'une génération qui n'ont pas assez questionné leurs parents quand ils avaient un certain âge. En tout cas, les origines polonaises comptent peu. C'est tout ce que j'ai toujours eu comme véritable héritage.
Vous êtes née en 1945 dans l'Allier. Vous allez grandir d'abord en Seine-et-Marne avant de déménager pour la ville de Lyon. Là-bas, vous allez au lycée pour filles Juliette Récamier. Et puis surtout, vous prenez des cours de théâtre avec votre sœur Sophie. Vous rentrez même au conservatoire. Et je crois bien que cette période, cette découverte du jeu, de la scène, c'est un premier moment important pour vous dans votre parcours.
J'ai eu deux énormes coups de foudre pour le théâtre. Un dans la petite enfance, à 8 ans. Je vois une représentation du Médecin malgré lui. J'étais absolument éblouie. C'était extrêmement drôle. Alors, je ne sais pas s'ils étaient bons ou pas bons, mais ça m'a beaucoup séduite, sans en projeter quoi que ce soit sur ma propre vie. Mais j'ai trouvé ça formidable, magique. Enfin bon. Et puis, je suis entrée ensuite au Conservatoire d'art dramatique en première, quand j'étais en première. Et là, c'était mon professeur d'histoire qui m'a dit... Mais mademoiselle Agazinski, parce qu'on parlait comme ça à l'époque, vous qui aimez tant le théâtre, pourquoi vous n'allez pas au Festival d'Avignon ? Alors j'ai dit, mais Festival d'Avignon, qu'est-ce que c'est ?
Pas.
Et alors, elle m'explique, puis elle me dit, il y a des jeunes du monde entier, de votre âge, qui viennent pour assister aux pièces de théâtre. Et c'était donc le TNP, dirigé par Jean Villard. Et là, c'était le théâtre à son niveau le plus noble. D'une part, ça m'a ébloui. Enfin, il y avait du Molière, il y avait du Giraudoux, il y avait Shakespeare.
Et vous retournez plusieurs fois de suite dans ce festival, car vous êtes passionnée de théâtre, Sylviane Agazinski, et de littérature aussi. Et je pense notamment à un livre, Le Rouge et Noir de Stendhal, que vous lisez adolescente. Là, c'est le. C'est
une révélation, ça a été. C'est voilà, à chaque fois, au fond, dans la vie, on s'aperçoit que rien n'est prévu et rien n'est. On ne sait rien de ce qui va se passer. On prend toutes les décisions dans le noir, mais ceux qui jouent un rôle, soit profondément, souterrainement, soit très consciemment, ce sont les rencontres. Les rencontres des textes, les rencontres des personnes, les rencontres évidemment des œuvres, des amis. Et la littérature, au fond, la grande littérature, je n'ai rencontré que tardivement et beaucoup trop tardivement, vers 14-15 ans, alors que je lisais un peu n'importe quoi avant, dans le désordre, des choses qui n'étaient pas... Bon, enfin, Le Rouge et le Noir, ça a été quelque chose de très profond. De tout à coup, je dis, ah, donc, c'est ça la littérature. Je ne savais pas, au fond. Mmh. Donc, ça peut être ça. Mais il y avait peut-être un effet légèrement pervers, qui est que j'ai eu un goût pendant l'adolescence pour les grands romans de passion.
Lesquels
Justement, dans Le Rouge et le Noir, dans La Chartreuse de Parme, Anna Karénine, et que j'avais quand même dans mon horizon l'idée que l'amour devait être passion, ou absolument passionnel, ou rien du tout.
La philosophie finit par arriver en classe de première, seconde, à travers des exposés que vous faites avec Montesquieu, par exemple, Jean-Paul Sartre. Vous dites que lors de ces exposés, vous débordez complètement, vous devez tenir une heure et puis vous faites 2h30 sur Jean-Paul Sartre parce que les sujets vous passionnent beaucoup. En fait, vous vous êtes senti très à l'aise, très vite, avec la philosophie.
En classe terminale, donc là, je me suis mis à lire beaucoup de philosophie, le plus possible dans tout ce qu'on avait. On avait une bibliothèque de philo dans la classe, donc on pouvait prendre plein de choses. Et puis, j'avais cet exposé à faire sur Sartre. Je m'étais proposé, puis au lieu de faire 50 minutes ou 3 quarts d'heure, comme m'avait demandé le professeur, j'ai fait 2h30.
Et débordé.
Alors, j'ai dit, mais excusez-moi, j'ai débordé. Non, continuez, elle me disait. Et là, je me suis dit, ah, sinon, c'est quand même, c'est bien.
Il faut que je continue. Et c'est votre prof de français qui vous dit, il faut absolument que vous continuiez.
Alors, le professeur de français, elle me l'a dit en première, il faut absolument que vous fassiez de la philo. Et le prof de philo, comme on disait, m'a dit, mais oui, continuez, voilà.
Et c'est ce que vous allez faire à Lyon. Vous suivez le séminaire de Gilles Deleuze dans les années 60. Et puis, vous allez faire des rencontres décisives par la suite. Jacques Derrida, notamment, que vous rencontrez dans les années 70. Quel fut le retentissement de sa pensée sur votre réflexion philosophique ?
Derrida, je vais dire comme Denis Cambouchner, m'a beaucoup appris à lire, et notamment à lire des textes que je connaissais mal, comme un peu Husserl, mais beaucoup Heidegger, par exemple. Les influences n'ont jamais été simples et, pour le dire très simplement, j'ai eu une relation très, très forte avec Derrida, mais je n'étais pas disciple. Mmh. Je ne me suis jamais sentie disciple de personne, d'ailleurs. J'ai envie de citer Flaubert. Un jour, je suis tombée sur cette phrase « On ne choisit pas son sujet ». Eh bien, j'étais convaincue de ça. Le sujet, il vous tombe dessus, il s'impose à vous comme question fondamentale.
Et le sujet qui s'est imposé à vous, justement, comme question fondamentale, eh bien, c'est le sujet de la différence des sexes et de l'altérité. Il y a cette norme qui veut que l'universel soit le masculin. À quand remonte cette norme ? Vous avez parlé des Grecs, vous avez aussi parlé du christianisme, vous avez consacré un livre métaphysique des sexes sur la question. Et dans ce livre, vous étudiez les discours de saint Augustin, saint Paul, sur la différence des sexes. Qu'est-ce qu'ils disent exactement, ces auteurs-là ?
Alors, le fondamental appui pour les théologiens chrétiens, c'est d'abord la Genèse, où il y a deux récits de la création, qu'on cite tout le temps. Dieu le créa l'Adam, qui veut dire parce qu'il est en terre glaise, donc c'est d'où son nom d'Adam, il est en terre, c'est le terreux, on l'appelait des fois. Le terreux, il est créé par Dieu, il le créa hommes et femmes, mâles et femelles. Beaucoup de débats là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Donc, en tout cas, il y a les deux. D'emblée, il y a cette division. Et puis, il y a le deuxième récit de la création, qui est Adam est créé, et puis il s'endort, et Dieu dit, pour faire très vite, créons une aide pour lui. Et à ce moment-là, pendant qu'Adam dort, de la côte ou du côté d'Adam, Dieu crée Ève, qui sort donc, assez paradoxalement quand même, du corps d'Adam, et qui est destinée à Adam pour l'aider ou comme une compagne. Enfin, on peut souligner l'un ou l'autre de ces aspects. Saint Thomas dira beaucoup plus tard, c'était pas vraiment pour l'aider, parce que s'il avait voulu créer un autre être humain pour l'aider, il aurait créé un autre homme. Mais en fait, il crée une femme, évidemment, pour l'aider à avoir une descendance. Et le schéma vraiment fondamental qui va jouer, qui va traverser toute la théologie, c'est la femme est dérivée de l'homme, elle est seconde. Lévinas parle d'un après-coup, elle est dans l'après-coup. Il y a Adam, il y a l'homme, et puis ensuite la femme, donc il y a cette dérivation. Et ce statut est à la fois celui donc d'un être dérivé, d'un être secondaire, d'un être dévoué, d'un être auxiliaire, dira saint Augustin, car elle est toujours une auxiliaire, certes une auxiliaire précieuse, une auxiliaire qui a beaucoup de dignité, etc., mais elle a ce statut d'auxiliaire. Je pense que cette idée d'auxiliaire, elle est encore en partie présente.
Et qu'est-ce qui différencie du coup l'homme de la femme ? L'homme, c'est l'esprit, c'est l'abstrait, et puis la femme, c'est
alors,
la chair.
Alors effectivement, l'homme est créé, alors là, ça passe par saint Paul et saint Augustin aussi, l'homme est créé par Dieu pour à la ressemblance de Dieu pour son esprit, et la femme est tournée vers l'homme parce qu'elle lui est destinée, c'est-à-dire que elle est créée pour son existence charnelle et non pas pour son esprit. Alors bien sûr, chacun est les deux, c'est-à-dire tout individu est à la fois esprit, spiritualité et chair, mais Adam a été créé pour sa spiritualité, et pour résumer, et Ève est créée pour sa chair, pour assurer une descendance à Adam. Et donc, vous avez là une fondamentale distinction de vocation de l'un et de l'autre, et de destination de l'un et de l'autre. Et là, ça va se traduire aussi bien dans la théologie que dans la philosophie.
Avec cette idée donc que le masculin est l'universel, aujourd'hui, on vit toujours dans un régime où androcentré. Alors androcentré, je rappelle, c'est quand on envisage le monde avec seulement un point de vue masculin.
Dans la logique androcentrique, ou androcentrée, si vous voulez, la femme n'est pas l'autre, au sens de il y a Adam et Ève, il y a l'homme et la femme. La femme diffère, mais c'est elle qui diffère. Lui diffère de personne. Voilà, et c'est la norme. Simone de Beauvoir disait, l'homme se sent dans son droit en étant un homme, la femme se sent toujours un peu dans son tort. C'était assez amusant, mais pas tout à fait faux, en tout cas à son époque. J'espère que ça n'est plus vrai maintenant. En tout cas, c'est elle qui diffère, c'est pour ça que j'insistais sur la notion de dérive. Et le fait que dans le christianisme, comme dans le judaïsme, il y a un prototype du genre humain, et ce prototype est masculin. C'est pour ça que c'est elle qui diffère, alors que lui, on ne dira jamais l'homme diffère de la femme. On dit, moi,
toujours
je sais, quand je travaillais, je recevais des invitations à parler dans des colloques. En quoi la femme diffère-t-elle de l'homme? Jamais. En quoi l'homme diffère-t-il de la femme? Et là, je ferai appel non pas seulement à la biologie, mais à l'anthropologie. Il faut lire François Jacob d'un côté, mais il faut lire Lévi-Strauss, qui nous rappelle que les humains sont avant tout des êtres vivants, quand même. Et puis Lévi-Strauss, qui dit dans une émission de télévision où il parle justement avec François Jacob, il lui dit ceci, « Dans toutes les sociétés que je connais, il en connaissait beaucoup, les femmes sont vues comme le sexe dangereux. » Quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et si ce n'était pas à cause même de cette puissance que les femmes avaient été mises sous tutelle. Et justement, je lis Augustin à l'époque, et qu'est-ce que je vois? Je vois, à propos du mariage, les hommes, dit saint Augustin, donc vous voyez, là, on est au 3e, 4e siècle, sont bien obligés de se marier. Les femmes ne seraient pas obligées de se marier parce qu'elles pourraient vivre librement, elles auraient des enfants de toute façon, elles rencontreraient des hommes, et puis bon. Mais les hommes, s'ils veulent connaître leur fils, il faut qu'ils aient une épouse. Sinon, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas de successeurs. Ils n'ont pas d'aide parce que les enfants, c'est aussi. Et pour connaître leur fils, ben, il faut une femme à eux. Une femme qui n'aille pas avec d'autres. Et donc, vous avez absolument la naissance du verrou familial. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Alors, tout ça, évidemment, est terminé.
Alors, terminé. Oui, peut-être, mais il reste des avancées nécessaires dans le domaine politique, notamment, c'est le constat que vous faites dans les années 90. En 96, nous sommes au mois de juin, et plusieurs femmes de droite et de gauche publient un manifeste. C'est le manifeste des 10. Simone Veil et Edith Cresson font partie des signataires. Dans ce manifeste, elles font le constat que si l'égalité entre les sexes est consacrée en droit, dans la vie concrète, on en est quand même loin. À commencer dans la vie politique, il y a trop peu de femmes dans l'arène politique. Et ce sujet va stimuler votre réflexion puisque vous allez en tirer un livre qui sortira 2 ans plus tard. Ce livre, c'est « Politique des sexes ».
Le manifeste des 10 pour la parité m'a frappée par le fait qu'il émanait de femmes de droite et de gauche, de femmes politiques. Et le constat des femmes politiques, c'était un, on a des difficultés folles pour être candidate. Et deux, à l'Assemblée nationale et au Sénat, les deux réunis, on est autour de 95% d'hommes. Donc c'était quand même extrêmement frappant. Et elle disait, mais ce n'est pas une question de droit, puisqu'on a le droit d'être électrice et d'être élue et de se présenter. Mais ce sont les partis qui bloquent, parce qu'évidemment, pour faire entrer des femmes dans la vie politique, il fallait obligatoirement que certains des élus laissent leur place. Et donc l'idée générale, que moi, même si je ne l'ai pas dit forcément tout de suite comme ça, mais il fallait corriger ce monopole.
Vous plaidez pour une féminisation des
pour une féminisation. Et surtout, ça m'oblige aussi à entrer. Alors, il y a quelque chose de très important, c'est qu'au moment de cette lutte, donc moi je me joins à ça, j'écris dans la presse, dans Le Monde, etc. Et au moment où je rencontre un certain nombre de grands esprits, avec un petit peu d'ironie, mais enfin des gens très, très intelligents, non, et qui me disaient, mais enfin, c'est du communautarisme. Alors, je me dis, mais pourquoi vous dites communautarisme? Les femmes ne forment pas une communauté, mais elles forment tout simplement la moitié de l'humanité. Et en cela, une nation, et tout peuple, toute nation est faite d'hommes et de femmes. Bon. Et donc la citoyenneté est forcément celle des hommes et des femmes. Et pourquoi il n'en était pas ainsi? Et c'est là que ça oblige à réfléchir alors, sur les siècles qui précèdent, c'est-à-dire sur la naissance de la démocratie, sur la naissance de la République, et sur la, appelons ça la survivance du monopole masculin du pouvoir, qui est en même temps la survivance d'une identification entre l'universel et le masculin. Et c'est pour cette raison qu'en 1997, des hommes me disent que les femmes forment un groupe particulier, parce qu'ils sont encore, inconsciemment je pense, ils sont encore dans l'idée que la masculinité est simplement la normalité et que les femmes, au fond, sont une particularité. Tout dans la société s'est construit sur une communauté virile, une communauté masculine, et l'habitude fait que ça continue. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je voulais absolument citer.
Alors, c'est le moment, allez-y.
Tocqueville est très important parce que, en lisant De la démocratie en Amérique.
Qui est un ouvrage politique fondateur. Il pense, c'est un livre qui interroge la nature de la démocratie, de l'égalité des conditions, et pourtant la femme est complètement
absente. Alors, je tombe sur le chapitre qui concerne l'égalité. Et les femmes. Et je vois qu'il existe entre les hommes et les femmes une égalité morale. Alors je me dis, bon, il va y avoir quand même autre chose. Une égalité de morale, une égalité de dignité. Mais on n'imagine pas, dit Tocqueville, on n'imagine pas une femme qui s'occuperait des affaires économiques ou de la politique. C'est inimaginable. Et alors, il dit cette chose aux États-Unis, à propos de la démocratie, aux États-Unis, il n'est personne qui ne soit électeur. Si ce n'est les esclaves, les indigents nourris par les communes, j'attends la suite. Et je me dis, il va quand même dire que les femmes ne votent pas. Ben non, il ne le dit pas, aucun mot. Et donc ça, c'est extrêmement symptomatique de ce que j'appelais tout à l'heure la construction de la démocratie comme communauté virile, celle des pères de famille en Grèce, hein, et pas n'importe quelle. Tous les hommes ne sont pas citoyens, bien sûr, mais la construction de la citoyenneté est masculine. et ne pouvaient être des citoyens que des hommes qui étaient libres. C'est pour ça qu'il dit les indigents, les esclaves, les serviteurs. Parce que ces gens ne sont pas libres, ne sont pas de leurs droits, comme on disait. Ils dépendent d'un autre, ils dépendent d'un maître. Et les femmes ne sont pas libres puisqu'elles dépendent de leur mari. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la construction de la famille patriarcale, la construction de la démocratie virile, ça s'emboîte l'un dans l'autre. C'est parce que, et jusque dans les années 1900, quand on refusait aux suffragettes le droit de vote, c'était parce qu'on considérait que elles dépendaient de leur époux, et en tout cas, elles lui devaient obéissance, et par conséquent, elles n'étaient pas vraiment libres.
Alors aujourd'hui, Sylviane Agazinski, un de vos chevaux de bataille, c'est la pratique de la GPA des mères porteuses qui, selon vous, constitue une marchandisation du corps féminin. Ça, c'est un sujet sur lequel vous prenez régulièrement la parole. Qu'est-ce qui vous inquiète éthiquement et philosophiquement dans cette pratique ?
Je me suis aperçue que les progrès de la technique, mais en même temps les progrès du marché, se conjuguaient pour faire, comme dans d'autres domaines, mais dans le domaine de la procréation, pour faire de la naissance un produit qu'on peut fabriquer et qu'on peut vendre, un petit peu comme par ailleurs dans les pays, dans certains pays, pas les pays européens, il existe des trafics d'organes. Dans certains pays comme les États-Unis, on peut vendre et acheter son sang, on peut vendre et acheter son sperme, ses ovocytes, son accouchement, sa gestation, etc., etc. Et je me suis dit que, là encore, eh bien, les femmes supportaient l'essentiel de ces marchés, de ces techniques. Parce que, sans entrer dans tous les détails, mais enfin, la seule contribution masculine à la procréation médicale ou biotechnologique, c'est de donner un peu de sperme. Ça n'est ni douloureux ni invasif, si vous voulez. Et alors que les femmes, que ce soit pour donner des ovocytes, or vous savez que c'est extrêmement intrusif et redoutable pour les femmes, le prélèvement d'ovocytes, et là j'ai découvert toutes les modalités de l'achat des ovocytes des femmes, en Ukraine, en Russie, en Espagne, etc. C'est encore pas le cas en France, heureusement. Espérons que ça dure. Au point que dans Corps en miettes, je raconte des enquêtes extrêmement précises qui sont faites sur ces hôpitaux qui font venir des pays d'Europe centrale des femmes pauvres. Et alors là, ces femmes qui sont dans le besoin, elles acceptent des stimulations ovariennes très fortes au risque de leur santé. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces marchés ? Qu'est-ce que c'est que ces trafics dont les femmes, une fois plus, et ça s'apparente non pas à la prostitution sexuelle, mais à l'exploitation du corps de la femme.
Mais alors, la liberté de disposer de son corps, qu'est-ce que vous en dites ?
J'ai souvent commenté ce terme qui est ambigu, disposer de son corps. Les ultralibéraux qui soutiennent les marchés, ils adorent ça. Ben oui, le corps, c'est à votre disposition, vous en faites ce que vous voulez. Ben non, rien dans notre droit ne dit et n'admet que nous sommes propriétaires de nos corps. Nous ne sommes pas propriétaires de notre corps, nous sommes notre corps. Et c'est exactement ce que le droit dit. Nous sommes une personne et notre corps est autant respectable. Mais ce n'est pas une propriété. Dire qu'on dispose de son corps n'est pas le fait que c'est un bien. C'est-à-dire que l'un des piliers du droit, c'est la différence entre les personnes et les biens. C'est sur ce pilier que repose la suppression de l'esclavage. Vous pouvez faire travailler quelqu'un, le rémunérer, mais vous ne pouvez pas acheter son corps.
La philosophie ne sert à rien. C'est pas moi qui le dis, mais c'est vous, Sylviane Agazinski, qui l'avez dit. En tout cas, elle n'a pas d'utilité directe. Elle peut conduire tout de même à des manières de vivre. En quoi être philosophe a influencé votre manière de vivre, Sylviane Agazinski ?
Alors, est-ce qu'il est sûr qu'elle ait influencé certaines de mes manières de vivre ? Oui, évidemment. C'est-à-dire, le questionnement, c'est la liberté même, c'est l'autonomie de la pensée. Donc, ça pousse à la réflexion qui doit être libre, mais éclairée. Parce que les élèves de terminale, par exemple, croient que la liberté d'expression suffit à la pensée. Non, il ne s'agit pas de la liberté d'expression, ça n'a rien à voir. Il s'agit d'une liberté de penser. La littérature aussi nous apprend à penser. Et comment ? Et comment ? Beaucoup. Et parfois mieux que la philosophie, d'ailleurs. Et ben, chez Balzac. Balzac vous apprend des choses de la vie, de la psychologie, de la société, de l'argent. Vous apprend beaucoup de choses, alors que les philosophes vous entraînent parfois dans des sphères tellement hautes de la métaphysique que vous perdez pied. Vous n'avez plus les pieds sur le sol. Bon, la littérature et la philosophie vous apprennent à penser. Et je trouve qu'il est très important aujourd'hui pour transmettre quelque chose dans l'éducation nationale, dans l'école en général, à tous les niveaux, c'est d'enseigner au fond ce goût de la lecture, de la réflexion philosophique, de la littérature, du théâtre, pour contribuer à former sa pensée et ne pas penser qu'elle est déjà là, elle n'est jamais donnée déjà là. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que je pensais quand j'avais 16 ans ? Mon Dieu, que j'étais peu de choses.
Est-ce que, en tant que philosophe, vous avez déjà ressenti le fameux syndrome de l'imposteur ?
Tout le temps, oui. On doute toujours. Oui, je crois qu'on doute toujours de soi-même, parce que si on ne doutait pas, ça voudrait dire qu'on aurait trouvé quelque chose, qu'on serait arrêté à quelque chose et que la pensée serait immobile. Et la vie n'est pas immobile, la pensée n'est jamais immobile. On est toujours dans une existence. L'existence, c'est tout à l'heure, c'est demain. Et penser, c'est rester en éveil tout le temps. Toutes mes décisions dans la vie, bonnes ou mauvaises, ont été prises librement, vraiment. Mais la réflexion philosophique, la liberté philosophique, l'accompagne tout le temps. Pour moi, c'est aussi quand même lié à l'amour de la vie, parce que j'étais, je vais pas revenir à l'enfance, mais petite fille plutôt joyeuse, et avec un amour de la vie, des bonheurs de la vie, de tous les bonheurs de la vie. J'ai horreur de l'ascétisme, de l'intellectualité ascétique, grave, triste. Je pense que la pensée philosophique, elle n'a rien de triste. En tant qu'elle accompagne, le monde parfois est triste, mais la pensée n'est pas triste, c'est au contraire une source de joie supplémentaire. Parfois même la conscience de la joie.
Pour rebondir sur la joie, je suis tombée sur une archive de l'INA en préparant l'émission, une archive télé dans laquelle votre sœur dit que vous êtes quelqu'un de très farceur, qui aime beaucoup, beaucoup rire, alors qu'on peut se faire comme ça, l'image d'une femme assez discrète, assez réservée. Non, vous, dans la vie privée, en tout cas, vous aimez beaucoup rire.
J'ai fait beaucoup de canulars dans ma vie, oui, j'aime beaucoup, toujours gentil, mais quand même, j'ai fait pas mal de canulars.
Quel type
j'aime
de canulars
bien les plaisanteries. Je ne sais pas, une fois, j'appelle un ami qui est en vacances en me présentant comme une voisine qui trouve que ça fait trop de bruit parce que je sais qu'il y a une soirée le soir même et puis j'engueule. Alors, il s'excuse mille fois, il finit par me dire, c'était un ami peintre, mais écoutez, madame, mais joignez-vous à vous, venez prendre un verre. Je dis oui, mais je suis à Paris. Bon, des choses comme ça, voilà, j'aime bien.
Et ces blagues ne
c'est
vous
pas
ont...
méchant.
C'est pas méchant. Et ça ne vous a pas empêché d'être élu à l'Académie française, puisque vous avez été élu au fauteuil 19 de l'Académie en 2023. C'est Pascal Horry, membre de la même compagnie et historien, qui aurait soufflé votre nom pour que vous intégriez cette Académie, cette compagnie.
J'ai eu ce coup de téléphone de Pascal Horry, que je ne connaissais pas non plus, sinon par ses livres,
oui,
que j'admirais beaucoup.
Vous ne connaissiez pas personnellement ?
Non, mais je ne connaissais pratiquement personne. Et c'est Pascal Horry qui, à la faveur, alors ça c'est le moment favorable, c'est le kairos, comme disent les Grecs, trois élections blanches de suite. Et donc il me dit, voilà, je m'intéresse à ce que vous faites. Puis j'ai pensé que peut-être, vous voyez, faire consensus. On peut rien vous promettre. Il m'a bien dit, vous savez, une élection à l'Académie, c'est toujours imprévisible. Et donc, ne vous faites pas d'illusions, mais est-ce que vous acceptez que je présente ? Et alors, il a dû présenter d'une manière sûrement avantageuse ma candidature, et donc ça s'est fait très vite l'année dernière, au mois de juin, oui.
Qu'est-ce qu'elle a suscité comme émotion en vous, cette élection ? De la fierté, de la puissance, la légitimité ?
De l'émotion, parce que d'abord, sans connaître vraiment bien des académiciens, il y en a beaucoup que j'admire, que j'admirais, et d'autres que je découvre, avec grand plaisir d'ailleurs. Et puis bon, l'Académie, c'est quand même... D'abord, il y a une Il y a une perplexité, il y a une attente. Mais comment? Mais c'est pas possible. Je me suis réveillée le lendemain matin en me disant « mais non, c'est pas possible, tu n'es pas élue à l'Académie. » Parce que pour moi, l'Académie, c'est Racine, c'est Chateaubriand, c'est Bergson, c'est Paul Valéry. Et donc, voilà, je n'ai pas l'ambition de me situer aussi haut que ces génies. Donc, j'avais comme un doute. Mais j'ai trouvé que c'était donc une très très belle aventure, d'autant plus que j'avais eu à l'école des hautes études un parcours qui, pendant les 10 dernières années, était très solitaire, parce que mes objets de recherche, mes livres, mes analyses, mes positions n'étaient pas partagées. Certains amis étaient partis déjà, et j'étais très seule. Ensuite, j'ai été très seule aussi dans un certain nombre de positions, que ce soit par rapport à certains milieux, en tout cas, l'islamisme, les marchés du corps humain. Et moi, j'ai suivi mon chemin comme ça, tranquillement, mais assez solitairement, à part avec des amis intellectuels, certains amis aussi journalistes qui appréciaient beaucoup ce que je faisais. Et j'ai ressenti ça avec beaucoup de gratitude, comme une reconnaissance. Et je me suis dit que c'était exactement pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour ma liberté d'esprit, mon indépendance, que les académiciens m'avaient regardé avec intérêt. Et c'est pour cette même indépendance que je ne plaisais pas à d'autres.
Et je voulais dire un mot aussi sur votre épée d'académicienne. Vous avez fait graver le vers suivant « À l'inattendu, les dieux livrent passage ». C'est un vers qu'on peut trouver à la fin des tragédies d'Euripide.
Plusieurs tragédies. Oui.
Plusieurs. C'est un clin d'œil au théâtre qui fut donc, qui est toujours une de vos grandes passions. Et puis c'est une manière aussi de dire que cette entrée à l'académie, elle était assez inattendue pour vous.
Oui, il y a l'allusion à l'inattendu, les dieux livrent passage. C'est à la fois une allusion à mon élection, qui effectivement était totalement inattendue, et je considérais que les dieux m'avaient accordé un vent favorable. Et j'aime bien que l'idée de Dieu, dans ce qu'il a aussi de polyphonique, de polythéiste, nous rappelle que nous ne sommes que des mortels, parce que pour les Grecs, c'était très important. Et ce n'est pas parce qu'on ne croit plus au destin ou à Dieu que nous ne rencontrons pas nos limites. Nous les rencontrons, au contraire.
Vous avez été reçu sous la coupole par Marc Lambron, votre confrère immortel, le 14 mars dernier. On lui a posé quelques questions sur vous, Sylviane Gazinski. On l'écoute.
Eh bien, ma première vision de Sylviane Gazinski, il y a 45 ans à peu près, j'étais élève à l'école normale supérieure, je vais suivre quelques cours, une séance du séminaire de Jacques Derrida, et il y avait autour de Jacques Derrida ses disciples ou ses élèves, dont Sylviane Gazinski, qui était une belle femme brune, que je revois avec une robe gitane, très attentive, intervenant peu, mais avec une forme d'élégance, que je retrouve des décennies plus tard.
Et pour vous, c'est quoi son principal trait de caractère ?
Je dirais la pertinence, il y a plusieurs, la mesure, la modestie, le courage.
On a peut-être des qualités, mais seuls les autres, effectivement, peuvent nous dire, comme ils nous disent quand ils ne sont pas contents de nous, de nos défauts.
Et à l'occasion de votre réception, comme la tradition le veut, vous avez dû prononcer un discours qui était un éloge, l'éloge de votre prédécesseur, Jean-Loup Dabadie, qui était romancier, scénariste, parolier. Racontez-nous un peu les coulisses de l'écriture de ce discours, parce que c'est toujours un grand moment dans la vie d'un nouvel académicien, l'écriture de ce discours.
Ah, je crois, oui, en effet. Oui, parce que j'étais pas dans mon domaine. J'avais croisé plusieurs fois Jean-Loup Dabadie, donc je le connaissais personnellement et je le trouvais très, très charmant, mais je ne connaissais pas plus que ça et encore moins son œuvre.
Vous partagez quand même un intérêt pour le théâtre et puis un attachement géographique, l'île de Ré.
Voilà, on s'est croisés, mais tout ça est quand même assez superficiel, donc l'œuvre elle-même. Et j'ai passé beaucoup de temps en recherche. Alors évidemment, au début, je riais, je disais, oh, c'est quand même formidable, c'est la première fois que j'ai un texte, c'est quand même sérieux à faire, ça, c'est un hommage. Et qu'est-ce que je dois faire pour travailler ? Lire des romans, regarder des films, écouter des chansons, c'est quand même pas mal. Bon. Donc, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté, et tout ça était très agréable. Mais ensuite, quand il fallait construire le discours, c'est une autre affaire, parce que c'est quand même un genre rhétorique particulier. Et donc, il a fallu construire tout ça. Et j'ai fait en plusieurs fois, hein, et je refaisais, mais non, ça ne va pas. Mais c'était un plaisir, mais c'était une émotion aussi le jour même. Non, c'est une belle expérience. On joue le jeu et on est content parce que c'est un merci aussi. On remercie ceux qui vous ont accueillis parmi eux. Et puis j'étais émue parce que une fois on avait parlé de l'académie avec Jean-Loup, il m'avait dit vas-y, il faut que tu te présentes. Et c'est en 2017. Puis je vous dis, j'avais complètement oublié. Vas-y, il faut montrer que tu en as envie. Et cette scène m'est revenue, je l'avais un peu oubliée. Je me suis dit, mais il pensait pas que j'allais être à son fauteuil. Mais j'adore cette compagnie. Pourquoi ? Parce que c'est une addition de singularités absolues, de talents différents, de personnalités différentes, d'œuvres, d'écritures différentes. Et ça, c'est inouï, c'est merveilleux.
Le lendemain même de mon élection, un inconnu croisé dans la rue me félicita chaudement en soulignant, avec un peu de lourdeur peut-être, que mon fauteuil avait été celui de Chateaubriand. Je ne saurais jamais si ce compliment partait d'une bonne intention, mais le fait est que mon bonheur initial s'est transformé dans l'instant en confusion. Comment oser partager un fauteuil avec ce géant de la littérature ?
Alors là, on vient d'écouter un extrait de votre discours de réception sous la coupole. C'était le 14 mars 2024. Et dedans, vous parlez de ce vertige qui vous saisit quand on vous rappelle que vous allez occuper le fauteuil de Chateaubriand. Est-ce que vous avez fini par vous l'approprier, ce fauteuil ?
C'est ce qui est très excitant et ce qui prend beaucoup de temps, c'est de lire toute l'histoire de ceux qui ont occupé votre fauteuil. Et malgré soi, on est attiré. On se dit, ils ont été quand même élus. Et on s'aperçoit aussi de du temps si court qui nous sépare de la création de l'Académie, donc 1634, 1634, 1635, et on se dit, mais finalement, il n'y a pas tant de générations, quelquefois, il y a 15 personnes, c'est fou. Et l'un des plaisirs quand même aussi de l'Académie, c'est qu'on a l'impression de se plonger, aussi parce qu'on est dans des locaux comme ici, qui sont historiques, et on est plongé dans un bout d'histoire, dans un long bout d'histoire fascinante, qui est l'histoire de la littérature, avec les conflits qui ont opposé les romantiques aux autres. Et donc, on voit que tout ça a été extrêmement vivant, parfois grandiose quand même. En tout cas, on se dit, bon, on a envie, on a envie de continuer à faire vivre cette institution qui est tellement grand symbole de l'histoire de la littérature et de la France.
Pour finir, Sylvana Gazinski, je vous propose de finir par une petite séquence. C'est un court questionnaire que l'on pose à nos immortels. Le sujet de votre prochain livre ?
Heidegger.
Le conseil le plus précieux que vous avez reçu ?
Peut-être celui de Pascal Horry, présentez-vous. Ça peut être ça aussi.
Votre auteur préféré ?
Certainement Victor Hugo et Racine. C'est très classique, c'est très banal, mais je cherche la grandeur, là.
Le mot du dictionnaire que vous adorez entendre ?
Que j'adore entendre. J'aime bien le mot, je dis ça parce que j'ai travaillé là-dessus, y compris à propos de ça. J'aime bien le mot exotique.
Pourquoi ?
Parce que il y a le dehors et le dedans, parce qu'on peut être exotique à l'intérieur ou exotique dehors. Pour moi, c'est positif, alors que ça a souvent été peut-être traité. Bon, ça, c'est un assez joli mot.
Votre endroit préféré pour réfléchir ?
Mon bureau.
La ville où vous vous sentez le plus chez vous ?
Là, vraiment, je suis partagée en deux parce que je me sens complètement chez moi dans Paris, mais c'est un petit quartier dans mon arrondissement. Et puis, comme j'ai adopté un village dans l'île de Ré depuis 25 ans, quand je suis au cœur de ce village où j'habite une petite maison de village, je me sens complètement chez moi aussi.
Est-ce que vous auriez pu avoir une autre destinée que la philosophie ? Le théâtre, peut-être ?
Vous savez, je voulais arrêter mes études à 15 ans pour faire du théâtre. Mes parents m'ont dit, bon, oui, bien sûr, mais passe ton bac d'abord, etc. Ils ne s'attendaient pas à ce que la philosophie me... oui, le théâtre, mais je ne regrette pas. Non. Si, j'aurais aimé faire de la musique aussi, chanter.
Cantatrice.
Oui, parce que ma mère avait une voix de cantatrice, de soprane formidable. Et quand j'étais petite, j'aurais bien voulu être cantatrice, mais je n'avais pas du tout cette voix et je n'avais pas ce coffre. Mais oui, chanter, j'aurais aimé chanter aussi.
Si vous pouviez dîner avec un philosophe, mort ou vivant, qui choisiriez-vous?
Ah, alors sûrement pas Kierkegaard. Mais non, mais il n'est pas drôle. Je veux dire, il est extraordinaire, mais un peu pathétique. Non, non, je... Ah oui, alors ça, c'est une colle. Ça, c'est très intéressant. Au fond, ce serait curieux parce que c'est une culture trop lointaine, alors ce ne serait peut-être pas le même intérêt. Mais Aristote, cet homme dont je sais finalement pas tellement de choses, mais à travers ses textes, je l'aime.
Et pour finir, la chanson que vous avez en tête en ce moment?
J'ai souvent en tête des chansons de Brassens parce que effectivement c'est ma jeunesse, mais c'est, pour moi c'est aussi immortel et j'adore, je fredonne beaucoup de chansons de Brassens.
Merci Sylviane Agazanski.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que.
En habit vert, rencontre avec une académicienne.